Les podcasts de l'Institut de France. L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Henri IV l'a surnommée la plus belle maison de France et il faut croire que le compliment tient toujours. En 2025, le château de Chantilly a été élu monument préféré des Français et on comprend pourquoi, car l'histoire de ce domaine niché dans l'Oise a tout d'un roman. Habité par des familles proches du pouvoir royal, le lieu a tout traversé. Les fastes de la Renaissance, les drames de la Révolution et la splendeur retrouvée du 19e siècle. Alors d'où vient son nom? Quelle était sa fonction? Et que reste-t-il des légendes qui entourent encore ses murs? L'écrivain et haut fonctionnaire Emmanuel Maury est dans notre studio pour nous en parler. Le correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques raconte ce lieu dans son dernier livre, Le roman secret de Chantilly. Emmanuel Maury, bonjour.
Bonjour.
Alors on attribue à Chantilly plein de légendes qui sont plus ou moins vraies, à commencer par ce nom, Chantilly. Il y a plusieurs hypothèses qui se disputent la vérité. De quoi le mot Chantilly viendrait-il vraiment?
Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais quand même souligner la performance de l'élection de Chantilly comme monument préféré des Français, ouais. Parce qu'il était en concurrence avec, par exemple, Chenonceau ou la basilique de Saint-Denis. C'est quand même une performance exceptionnelle et cela montre vraiment l'originalité de ce château, dont on pourra reparler si vous voulez, qui est connu dans le monde entier et qui, d'ailleurs, pourrait être inscrit un jour au patrimoine mondial de l'humanité. Alors, effectivement, c'est un lieu qui était à la fois connu, très connu, et en même temps, son histoire, dans sa totalité, n'avait jamais été racontée. Il y avait un certain nombre d'ouvrages, certains anciens d'ailleurs, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, y compris, et parce que c'était aussi l'un des intérêts, de percer les nombreux secrets de ce château, dont les origines. Et donc, c'est effectivement l'objet de votre question. Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse peut-être la plus fascinante est celle de Cantilus, qui serait un scribe dont Pline parle au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui ferait remonter les origines de Chantilly à plus de 2000 ans, sachant que déjà, on est certain de 1000 ans d'histoire, hein, c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, ce qui en fait un des 3 ou 4 châteaux royaux princiers les plus vieux de France. Donc 2000 ans, alors ce serait absolument fascinant.
Vous avez parlé de ce scribe qui vivait à l'époque gallo-romaine. Vous, c'est l'hypothèse sur laquelle...
Non, en fait, on n'en sait rien en réalité. Hein. Je vous dis, c'est l'hypothèse qui fait peut-être le plus rêver, parce que ça ferait remonter Chantilly à plus de 2000 ans. Mais il y a aussi l'hypothèse du chant des tilleuls, du chant des oiseaux. La seule chose, en fait... dans ce mystère des origines de Chantilly dont on est sûr, c'est une date, 1227. Là, on est sûr qu'en 1227, à l'époque du Guy V de Senlis, il y avait une bâtisse. Mais pour le reste, on en est réduit aux hypothèses.
Alors, les premiers seigneurs de Chantilly, justement, ce sont des proches du roi Louis le Gros, qui habitent, nous sommes autour de l'an 1000 à peu près.
Oui.
C'est bien ça. Il s'agit de la famille Bouteiller. C'est pas n'importe quelle famille à l'époque. C'est la famille qui s'occupe de la cave du roi, on peut
oui,
dire ça
mais
comme ça.
Comme le nom l'indique, hein, les bouteillers, ce sont ceux qui sont chargés de mettre le vin du roi en bouteille. Alors, ça paraît un peu trivial, mais en réalité, c'est stratégique, puisqu'il s'agit quand même de protéger avant tout le roi de tout empoisonnement, puisqu'il avait quand même beaucoup de rivaux et d'ennemis. Mais très vite, la fonction de bouteiller s'étend à des charges plus importantes, c'est-à-dire avoir la charge de la gestion du domaine viticole qui était assez étendu. Puis ensuite, même les bouteillers ont des fonctions juridiques importantes, comme attester par exemple les chartes royales. Mmh. Donc c'est une fonction à l'origine très matérielle et qui devient ensuite beaucoup plus importante. C'est un des principaux officiers auprès du roi.
Alors là, on vient de parler de la famille Bouteiller, premier seigneur de Chantilly. C'est sous une autre famille que Chantilly prend la forme d'un vrai château fort. Il devient une forteresse militaire avec la famille d'Orgemont. C'est le nom de cette famille voilà, qui a fait de ce domaine un lieu stratégique et militaire, on peut dire ça comme ça?
Oui, enfin, ça était déjà le cas avant, mais encore plus avec Pierre d'Orgemont, qui est en fait le chancelier, l'équivalent du ministre de la Justice de Charles V. D'ailleurs, ce que l'on voit quand on regarde Chantilly aujourd'hui, les premières fondations remonte à cette époque-là, hein, c'est-à-dire la fin du XIVe siècle, les années 1380. Ce qui est d'ailleurs fascinant dans l'histoire de Chantilly, c'est que c'est un château très ancien. Hein, bon, par comparaison, Versailles, XVIIe siècle, Chambord, XVIe siècle. Donc c'est un des plus anciens avec le Louvre, Saint-Germain-en-Laye et Fontainebleau. Mais il a une particularité par rapport à ces trois-là, c'est qu'il a vu se succéder cinq grandes dynasties. Donc, vous évoquiez les Bouteillers de Senlis, il y a eu les Orgemont, puis ensuite il y aura les Montmorency, les Condé, les Orléans. Alors que les autres châteaux, le Louvre par exemple, c'est un château qui a toujours appartenu à la famille royale.
Mais vous racontez bien comment la physionomie de ce château se transforme aussi au gré des événements de l'histoire de France. Vous racontez notamment la guerre de Cent Ans, il va être pillé pendant cet épisode. Et puis, suite à cet événement, reconstruit, puis redécoré, au gré des familles qui l'habitent, on ne peut pas ne pas parler d'une famille en particulier, c'est la famille des Montmorency, qui, on peut dire, sublime complètement ce château.
Oui, d'ailleurs, le bâtiment le plus ancien aujourd'hui à Chantilly, c'est ce qu'on appelle le Petit Château, qui a été construit par Jean Bulan, l'architecte
de la famille,
d'Anne de Montmorency, hein, celui qui a laissé l'empreinte la plus mémorable. Anne de Montmorency était l'un des plus grands mécènes de son temps. Ouais. Il a été éduqué avec François Ier à Amboise et il avait 600 fiefs dans toute la France et Chantilly en étant l'épicentre en quelque sorte.
Anne de Montmorency, donc vous l'avez dit, c'est un homme. Hein. Il était connétable de France, et c'est, en gros, c'est comment commandant en chef
des armées,
pour le dire plus simplement. Et donc, c'est sous Anne de Montmorency que le château va se transformer. On parle de l'apport d'un style renaissance italienne, notamment.
Oui, inspiré de l'Italie, puisqu'il s'est rendu dans différentes parties de l'Europe, et il a ramené beaucoup d'œuvres d'art d'Italie, et il a fait venir aussi des artistes qu'il a protégés. Hein. C'est en ce sens aussi que c'était un mécène, oui. Bernard Palissy, Jean Goujon et tant d'autres. Il a aussi reçu les grands de ce monde, comme par exemple Charles Quint, hein, qui voulait lui échanger Chantilly contre une de ses provinces des Pays-Bas, par exemple.
Oui, et c'était pas le seul, d'ailleurs, je crois. Roi qui... Enfin,
Non, c'était pas le seul. Et par exemple, son fils, Henri Ier, aussi également connétable de France, de Montmorency, Henri IV a souhaité mettre la main sur Chantilly, parce qu'Henri IV était un fou de Chantilly également. Et il lui avait trouvé la seule parade qu'il avait trouvée pour pouvoir le refuser cet ordre du roi. C'est lui dire, mais sire, vous êtes déjà propriétaire, laissez-moi seulement en être le concierge.
Alors, c'est à la famille Montmorency que le château doit ses fondations prospères, en tout cas ce style Renaissance. Ces Montmorency, ils ont connu une fin assez, assez tragique. Vous parlez notamment d'Henri II de Montmorency. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Ah ben, il est exécuté à la hache. Au Capitole, pour avoir fait partie de la Fronde, en fait, avec Gaston d'Orléans, hein, contre Louis XIII. Le roi était absolument sans état d'âme, parce qu'il fallait donner l'exemple. Il ne pouvait pas, évidemment, condamner à mort son frère, donc il fallait que ce soit un grand prince, et ça a été donc Henri II de Montmorency, qui lui aussi a été un grand mécène, puisqu'il a protégé à Chantilly même Théophile de Viau, dont on va commémorer la naissance ou la mort, je ne sais plus, l'année prochaine, et qui a été un des grands représentants de la poésie baroque.
Pour revenir à cette exécution, ce que vous racontez dans ce livre, ce que vous mettez en avant, c'est que beaucoup de ces familles qui ont habité Chantilly ont fini par avoir un destin assez difficile, tragique.
On vient
de parler des Montmorency. On va parler d'autres familles.
Oui, alors en fait, ce sont des grandes dynasties. Donc, qui dit grande dynastie, dit splendeur, grandeur, mais aussi déclin. Et dans les passations de pouvoir, il y a souvent des drames, et pas seulement dans les passations de pouvoir. Il y a eu, par exemple, des histoires de fantômes. Louise de Budos, la femme de Henri de Montmorency, qui est morte tragiquement. Elle était magnifique, elle avait 23 ans, et soudain, elle est prise de malaise, son visage se déforme, sent le soufre, devient noir, etc. C'est un des mystères. Bon, aujourd'hui, les médecins pensent que c'était peut-être une crise d'éclampsie, mais on n'en sait rien en réalité. Et Saint-Simon, quand même, la plume est assez fiable, raconte qu'on la voyait apparaître des fenêtres du château à la veille de la mort de chacun des seigneurs des lieux. Bon, c'est un peu une légende, hein, on ne peut pas croire quand même à ces histoires de fantômes. Mais enfin, ça reste un mystère.
C'est à partir de ce moment-là qu'on dit que c'est une maison hantée. Ou c'est, ça
oui,
arrive un
alors
petit peu
oui, c'est, oui, oui, on a parlé de maisons hantées, on a parlé de la venue du diable. Puis il y a eu d'autres histoires, comme par exemple celle du prince Henri-Jules, qui était le fils du grand Condé, enfin il faut dire un mot du grand Condé, qui était fou et qui se prenait tantôt pour un chien, tantôt pour un loup, même pour une chauve-souris, même pour une plante qu'il fallait arroser. Et donc il y a toute une série d'histoires autour de ce prince qui alimente également les mystères.
Dans laquelle vous revenez dans ce livre. Vous avez parlé des grands Condés. Effectivement, c'est la famille qui succède aux Montmorency, parce que après cette dynastie, les Montmorency, le château va être récupéré par Louis XIII et ensuite redonné à la famille qu'on appelle les princes de Condé. Ce sont des proches du roi, les cousins du roi.
Oui, cousins du roi. C'est une famille cousine du roi qui a été longtemps prétendant au trône de France, donc prince du sang. Ils deviennent propriétaires du domaine par mariage avec Charlotte de Montmorency, qui est d'ailleurs un personnage à elle toute seule, hein, puisque ça a été la dernière grande passion d'Henri IV.
Et vous dites d'ailleurs que le lieu, enfin Chantilly devient un lieu de décision politique aussi, à part entière.
Oui, oui. Par exemple, Louis XIII a aimé beaucoup séjourner là-bas, et d'ailleurs Richelieu devait lui écrivait en lui disant il faudrait que vous reveniez quand même à Paris, parce qu'il prenait aussi, alors il aimait chasser, mais il prenait aussi ses décisions, certaines de ses décisions à Chantilly même.
Alors, vous l'avez un petit peu évoqué avec Louis XIII, ça devient, on a parlé de lieu de décision politique, mais aussi lieu de vie culturelle. Chantilly va rivaliser avec le château de Versailles, qui est alors la résidence des rois. C'est d'ailleurs le jardinier de Versailles, André Le Nôtre, qui va dessiner les plans, le jardin de Chantilly. Et je crois que d'ailleurs, de tous les jardins que Le Nôtre avait dessinés, Chantilly, c'est son préféré.
Oui, donc Le Nôtre est convié à Chantilly par le grand Condé, qui est dans une position de rivalité vis-à-vis de son cousin Louis XIV. Alors même que Le Nôtre a été convoqué à Versailles pour dessiner les jardins, il fait appel à lui. Et il est vrai qu'à la fin de sa vie, Le Nôtre écrit, c'est au duc de Portland, « Souvenez-vous des plus beaux jardins de France, de Versailles, des Tuileries, de vos vicomtes et surtout de Chantilly. »
Pour le décrire un petit peu, ce jardin, c'est, on parle de miroirs d'eau qui reflètent le ciel, des jets d'eau, des fontaines, enfin, c'est absolument
oui, parce qu'en fait, la rivalité politique qui a abouti à un échec pour le grand Condé, puisqu'il a dû s'exiler, en fait, il l'a transmué en quelque sorte sur le plan architectural et esthétique. Et donc, là où le grand canal de Versailles mesurait 1,8 km, celui de Chantilly mesure 2,5 km. Là où les perspectives faisaient à Versailles une dizaine de kilomètres, à Chantilly, la grande perspective vers le Vertuganin en fait plus d'une vingtaine. Là où le système hydraulique à Versailles était assez limité, au sens où il fallait, vous vous souvenez, qu'on donne l'ordre de mettre en route les fontaines lorsque le roi passait, à Chantilly, l'eau coulait en permanence. On disait les jets d'eau ne se taisent ni jour ni nuit, parce qu'il y avait un système hydraulique extrêmement perfectionné. Puis il faut dire que le château est un éperon rocheux, en fait, est construit sur un éperon rocheux, entouré d'étangs, avec le détournement de la rivière La Nonette, qui permettait une alimentation permanente, en fait, des bassins.
Alors, il faut imaginer, toute la cour afflue, on y organise des banquets absolument somptueux. C'est le maître d'hôtel Vatel qui officie. Maître d'hôtel qui tient peut-être un peu trop à cœur son travail, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, Vatel, en fait, est victime de ce qu'on appellerait aujourd'hui un burn-out, en fait.
Hein. Oui, plus qu'un burn-out,
voilà.
Là.
Il était très perfectionniste, et on lui annonce 15 jours avant l'événement qu'on va recevoir le roi, Louis XIV, pour sceller la réconciliation entre les deux cousins à Chantilly. On est en avril, 23 avril 1671, et donc il met tout en branle pour pouvoir y l'été. Alors, Vatel, on le présente comme un cuisinier. C'était pas un cuisinier, c'était l'intendant général de la bouche, c'est-à-dire celui qui était chargé d'organiser les fêtes à Chantilly, après l'avoir été à Vaux-le-Vicomte. Alors, on lui annonce 3000 invités, quand même, hein, avec le roi, toute sa cour, avec des enjeux politiques très importants. Il dit, je ne dors ni jour ni nuit, en fait, et il veut que tout soit parfait. Alors, manque de chance pour lui, lorsque le roi arrive, il arrive avec plusieurs centaines d'invités en plus, qu'il faut loger de façon improvisée, dans le château, mais aussi dans les dépendances, dans le parc. Et puis, cette soirée absolument merveilleuse, sauf que, puisqu'il y avait des invités en trop, l'euro, c'est-à-dire la viande rôtie, hein, qui était le plat principal, a manqué à plusieurs tables. Alors là, c'était pour lui la déchéance, d'autant qu'il avait organisé un magnifique feu d'artifice sur le Grand Canal, et il y a eu quelques nuages qui ont un peu masqué le feu d'artifice. Il s'est senti déshonoré. Alors le grand Condé est venu le voir, il dit « Écoutez, Vatel, c'est très bien, ces petites imperfections, ça n'est rien. » Et puis, il attendait la livraison des poissons pour le lendemain, qu'il avait fait venir de tous les ports de la Manche, parce que le poisson noble, c'était le poisson de mer. Hein, donc, et en fait, à 5h du matin, au moment où les charrettes devaient arriver, ne sont arrivées que quelques carrioles de poissons. Donc, il s'est senti complètement déshonoré. Ça, Madame de Sévigné le raconte très bien, il se suicide par trois coups d'épée dans le ventre, il fallait le faire, hein, et une demi-heure après, le sort a voulu
les poissons sont arrivés,
et la fête a continué. Sans Vatel.
C'est à Vatel qu'on a aussi attribué l'invention de la crème chantilly, mais vous dites livre que non.
À tort. Voilà encore une légende ou un secret percé, c'est que la crème chantilly n'a pas été inventée par lui. On servait de son temps, il a joué un rôle considérable dans la nouvelle gastronomie, la promotion de la nouvelle gastronomie française, mais on servait à son époque ce qu'on appelait une neve di latte, c'est-à-dire une neige de lait, qui est un lointain ancêtre de la crème chantilly, mais la crème chantilly en fait a été inventé vraisemblablement par Procope, celui qui a créé ce qui est aujourd'hui le plus vieux restaurant de Paris.
Tout à côté de l'Institut, quelques minutes.
Et qui était en fait une crème glacée, puisqu'il était en fait glacier, hein, Procope, ouais, au retour de Louis XV pour faire plaisir à Louis XV, donc en 1722, donc beaucoup plus tard.
Alors, cette période de faste est brutalement arrêtée à la Révolution. Le château est pris pour cible par les révolutionnaires qui le dépouillent, le démolissent. Vous vous dites qu'il est carrément dépecé, ce château. C'est une période assez dramatique pour le bâtiment. Les pierres vont aussi être enlevées. À quel point il va être démoli ?
Le grand château sera entièrement rasé. Il y a quand même un élément important, hein, juste au sujet du grand Condé qu'on n'a pas évoqué, c'était qu'il faisait venir à Chantilly tous les grands esprits de son temps, et dans un esprit de liberté de pensée, d'expression, je le dis parce que nous sommes ici à l'Institut, qui était en opposition avec Versailles, où l'étiquette régnait de façon un peu rigide. Et donc, il y avait Racine, La Fontaine, voilà,
qui était attaché, dont
la mémoire est attachée à l'Institut, c'est pour ça que je l'évoque. Et puis, il y a eu une grande période aussi, au XVIIIe siècle, qui était la période du prince Monsieur le Duc, qui a été quand même Premier ministre de Louis XV et qui a joué un rôle non négligeable. Vous voulez juste souligner cela. Alors, effectivement, la Révolution est une table rase, hein, on détruit le grand château. D'ailleurs, une partie de la ville de Chantilly a été construite avec des pierres du château démantelé, en fait.
D'accord.
Voilà. Et il faut attendre la restauration, le retour des Condés pour que le château soit réhabilité, mais pas reconstruit, hein, c'est-à-dire que la reconstruction du grand château sera réalisée par le duc d'Aumale bien plus tard, dans les années 1870.
1875, c'est l'année où le château commence à retrouver son faste, et vous l'avez dit, cette reconstruction, on la doit au fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. C'est le duc d'Aumale que vous venez d'évoquer. Qui est-il,
Alors lui, il est vraiment très lié à l'Institut, puisqu'il est triplement académicien. Hein. D'abord membre de l'Académie française, élu en 1871, à son retour en France, puisqu'il a été exilé lorsque son père, Louis-Philippe, abdique. Il est obligé de s'exiler avec toute la famille d'Orléans en Angleterre, et il n'y revient qu'en 1870, après la chute du Second Empire, et il est tout de suite élu à l'Académie française. Il faut dire qu'il écrivait aussi, hein, c'était un historien, notamment historien de l'art, et il a passé tout son temps, pendant ses années d'exil, à constituer des collections dans tous les domaines, notamment des collections de peinture exceptionnelles, pour son éventuel futur château de Chantilly. Je dis éventuel, puisqu'il ne savait pas quand est-ce qu'il pourrait revenir. Et je disais qu'il était particulièrement lié à l'Institut, puisqu'il a été ensuite, il a reconstruit le grand château dans un esprit qui soit en harmonie avec le petit château qui était lui, qui n'avait pas été détruit, celui que j'évoquais tout à l'heure, de Jean Bulland, d'Anne de Montmorency, dans un esprit de la Renaissance. Il y a logé toutes ses collections, et cette œuvre est tellement remarquable, qu'il a confiée à l'architecte Honoré Daumet, qu'il a été ensuite élu à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis ensuite, il a été de nouveau exilé en 1886. Et pour le faire revenir, on l'a élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, ça n'a pas été le seul motif, hein, mais c'était une façon pour l'Institut de dire « il faut qu'il revienne en France ». Il faut dire qu'entre-temps, il avait légué Chantilly à l'Institut.
Et oui, on
voilà.
va
Et là, c'est
ça.
Toute une histoire.
Ce duc d'Aumale, il n'a pas eu une vie personnelle très facile. Là, vous y revenez aussi longuement dans ce livre. Il a perdu tous ses enfants. Il a survécu à tous ses enfants.
Il avait, à sa naissance, tout. Il était richissime, une des plus grandes fortunes de France, les Orléans. Mais en plus, il avait hérité par son parrain, le dernier prince de Condé, de la fortune des Condé, qui était l'une des plus importantes avec celle des Orléans. Il était beau, il était un remarquable élève au lycée Henri IV, puis il a été un officier remarquable, il a même gouverné l'Algérie à l'âge de 26 ans, après avoir pris la smala d'Abdelkader que personne n'arrivait à prendre. Donc c'était un homme exceptionnel, qui avait un goût exquis, qui épouse la princesse Marie-Caroline, qui lui donne 7 enfants. Tout semble lui réussir. Il est en même temps prince de France, son père est roi des Français. Et puis, sa vie est jalonnée de malheur. Il commence à être exilé, il perd un certain nombre de ses enfants en bas âge, il perd sa femme assez jeune, et puis il perd tous ses enfants, finalement. Et c'est l'un des fils conducteurs du livre, et l'un des inédits, si vous voulez, alors à partir notamment du journal d'Auguste Logel, qui a été d'ailleurs acquis par l'Institut en salle des ventes il y a quelques années, il a le sentiment d'une malédiction, puisqu'il avait tous ses bonheurs. Et,
tout lui a été attiré.
Et, voilà. Ce sentiment de malédiction est lié à Chantilly, puisqu'il a hérité de Chantilly à la suite de la mort mystérieuse, et c'est un des grands mystères de l'histoire de France, de son parrain, le duc de Bourbon. On sait aujourd'hui, il se trouve que à la fin de la rédaction de ce livre, j'ai été en contact avec Michel de Grèce, qui est son arrière-petit-neveu, au duc d'Aumale, et qui m'a rapporté un secret de famille. Il aurait dit à sa nièce lui l'avait interrogé en lui disant « Pourquoi vous avez légué Chantilly, cette merveille, avec toutes ses collections ?» Je rappelle que c'est le deuxième musée classique de France après le Louvre.
Après le Louvre, c'est énorme.
Elle lui demandait pourquoi vous avez légué à l'Institut et pas à notre famille. Vous n'aviez plus d'enfants, mais vous aviez tous vos neveux, Orléans. Et il lui a répondu, c'est parce que les conditions dans lesquelles j'ai été propriétaire de ce château m'ont porté malheur et je n'ai pas voulu que ce malheur retombe sur le reste de ma famille. Alors, ça n'est pas la seule raison, hein. C'est une raison qui a joué. Il y a aussi le fait qu'il pensait que le château ayant tellement été le jouet des aléas de l'histoire, il a voulu le protéger en le mettant entre les mains de l'Institut, en disant « ce n'est pas un pouvoir politique, c'est un pouvoir indépendant, et donc je serai assuré ainsi que le château ne sera pas dépouillé », d'où les conditions extrêmement strictes de son testament, hein, qui font qu'on ne peut rien déplacer de ce qui est à
Chantilly. On ne peut pas déplacer les peintures, les tableaux qui sont...
On ne peut... C'est d'ailleurs une des difficultés, hein, c'est que Chantilly ne peut prêter aucune œuvre d'art, et Dieu sait qu'il y en a. Hein, et donc, on ne peut voir ces œuvres d'art qu'en s'en rendant sur place. Et même la disposition intérieure des pièces ne peut pas être modifiée.
Et en même temps, c'est intéressant parce que ça permet aussi aux visiteurs de voir à quoi ressemblait une muséographie qui datait du 19e siècle, enfin de l'époque.
Oui, en fait, qui lui est propre aussi. C'est vraiment sa patte à lui. Bon, c'était probablement le plus grand collectionneur de son temps. Mais oui, c'est ce qui fait aussi la singularité de ce château. Il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est-à-dire qu'on parle du château de Chantilly, en réalité, il y en a 4, puisqu'il y a le petit château que j'évoquais tout à l'heure, d'un moment ainsi, le grand château reconstruit par le duc d'Aumale, le château d'Enghien qui est en face, et les grandes écuries, qui sont probablement les plus belles écuries d'Europe, hein, avec celle de Versailles, mais qui sont d'un château elle toute seule.
Oui, et qui a son propre musée aussi, le musée du cheval vivant.
Oui, alors il y a le musée Condé, et puis il y a le musée vivant du cheval, qui a été d'ailleurs rénové récemment.
Alors, parmi toute cette collection de peintures, vous le disiez, c'est une collection de peintures anciennes, la seconde après le musée du Louvre.
Oui.
Hein, donc, c'est pour que les auditeurs se rendent compte de l'importance de cette collection. Qu'est-ce qu'on peut y trouver comme chef-d'œuvre dans cette collection? Il y en a beaucoup. Hein.
Oui, on pourrait rétablir l'émission entière à cela. Mais récemment, il y a eu une exposition sur les très riches heures du duc de Berry, qui est le plus beau livre, probablement le plus beau livre enluminé du monde, début du XVe siècle. Donc, il y a une très, très belle bibliothèque, une des plus belles bibliothèques de France, avec celle de l'Institut, la BNF et celle de l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi, surtout, le duc d'Aumale, en fait, était un collectionneur frénétique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il collectionnait tout. Il collectionnait les peintures, les gravures, les sculptures, les photos, la porcelaine, absolument tout, la dentelle. Donc, il y a toute une série de collections à Chantilly, mais c'est surtout les peintures qui sont, à mon avis, les plus exceptionnelles. On a la plus grande collection des Clouets, par exemple, à l'époque de la Renaissance.
Avec le célèbre portrait de François Ier aussi,
Qu'on
retrouve dans tous les manuels scolaires, notamment.
Si vous voulez voir les Trois Grâces de Raphaël, qui est un des tableaux préférés du duc d'Aumale, vous êtes obligé d'aller à Chantilly pour le voir. C'est un petit tableau, mais qui est une merveille. Ouais. Si vous voulez voir l'Automne de Botticelli, vous êtes obligé aussi d'aller à Chantilly. Il y a les Watteau, il y a une exposition Watteau il y a 6 mois, qui est absolument exceptionnelle, parce qu'il reste très peu d'œuvres de Watteau. Donc Chantilly en a une grande partie. Et puis vous avez aussi des œuvres contemporaines du duc d'Aumale, de peintres contemporains du duc d'Aumale, Ingres, Delacroix, et voilà, je ne cite que quelques exemples.
Vous avez évoqué au tout début célèbre manuscrit du duc de Berry. Ce manuscrit est considéré comme le manuscrit le plus célèbre du monde. En deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de recueil de prières qui avait été attribué au duc de Berry, c'est ça?
Oui, c'est lui qui l'avait commandé. Il en avait d'ailleurs de nombreux, tous aussi beaux les uns que les autres. Il a voulu surpasser absolument tout ce qui existait. Il a été constitué en 3 étapes. Il y a eu 3 séries d'artistes qui ont travaillé dessus. Ça lui a coûté l'équivalent, la première étape lui a coûté l'équivalent, alors que c'était une des plus importantes fortunes de France, d'une année de ses revenus. Donc c'est dire, la beauté, la qualité picturale de l'ouvrage, avec de très nombreux feuillets, et puis l'influence aussi de cet ouvrage dans la peinture. Beaucoup pensent que la peinture flamande est très largement inspirée des réalisations en fait, que l'on trouve dans les très riches heures.
Dans ce manuscrit. Vous, à titre personnel, vous avez une œuvre, un objet qui vous a plus marqué que d'autres?
Alors je veux dire que celle-ci m'a particulièrement marqué, puisque j'ai été responsable d'une bibliothèque il y a quelques années. Mais si je devais emporter qu'un tableau, j'emporterais probablement les Trois Grâces de Raphaël, comme le duc d'Aumale, parce que c'est vrai que ce tableau est absolument merveilleux. Il tient une.
En plus, il est facile à transporter.
Voilà.
Alors Chantilly, on l'a dit au début, a été élu monument préféré des Français en 2025. Selon vous, ça s'explique aussi par cette histoire qu'on a brossée à vraiment très très gros traits aujourd'hui, cette histoire très romanesque que vous décrivez dans votre livre?
Oui, je pense que ça tient à cela, mais ça tient aussi à la particularité du lieu. C'est-à-dire qu'on a effectivement 4 châteaux, le parc est absolument somptueux, et aussi par l'originalité, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas de façon symétrique, comme à Versailles ou à Fontainebleau, on rentre par le côté, en quelque sorte. On est dans un site tout à fait exceptionnel, entouré d'eau. C'est un site qui est à la fois prestigieux, majestueux, qui en impose, et en même temps qui est très intime, qui est assez réduit, en fait, en superficie par rapport au très, très grand château, ce qui fait qu'on y est assez vite chez soi, en quelque sorte. Puis je pense que ce qui fascine, ce sont ces mystères que j'ai essayé de percer, parfois sans y arriver tout à fait, mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'histoire. Et puis je crois que l'autre raison, c'est que Chantilly, ce n'est pas simplement un monument, c'est un lieu vivant. C'est un lieu vivant qui incarne l'excellence française, l'art de vivre, la douceur de vivre, que symbolise par exemple le hameau. Le hameau de Chantilly est l'un des premiers hameaux, celui qui a inspiré le hameau de Versailles, Marie-Antoinette. C'est un lieu symbole de l'élégance, au travers par exemple du prix de Diane, des chasses, des courses, le prix de Diane mais aussi le prix du Jockey Club. Il y a des rallyes automobiles avec des expositions de voitures anciennes. Et puis c'est un symbole de la gastronomie, avec la crème chantilly. Il y a d'ailleurs des ateliers de crème chantilly qui ont été mis en place. Et donc, c'est en fait un condensé à la fois de l'art français et aussi de l'art de vivre à la française. Et je pense que c'est ça aussi qui séduit le public.
Bah, Emmanuel Maury, un grand merci à vous pour cette petite exploration historique du lieu qui donnera envie aux auditeurs de s'y déplacer, mais aussi de lire votre livre, Le roman secret de Chantilly, 1000 ans d'histoire de France. C'est publié aux éditions Perrin. On mettra tous les liens sur notre page émission. Merci à vous.
Merci.
Les podcasts de l'Institut de France.